L'aérien à la une de ce journal avec les conflits qui s'accumulent dans le ciel. On ira aussi au port et puis aux Marquises en fin d'édition. Mais avant, l'actualité de la semaine, c'est bien sûr la rentrée scolaire. Le journal de la mi-journée, c'est avec Charlie René. Bonjour Charlie.
Bonjour Damien, bonjour à tous.
Ça y est Charlie, les vacances sont terminées.
Alors pas pour nous, puisque l'actu n'a pas pris congé ces dernières semaines, vous l'avez sûrement entendu, mais pour les écoliers, collégiens et lycéens, c'est bien l'heure de la rentrée scolaire. Ce sera demain ou après-demain pour plus de 48 000 élèves du pays. Comme l'an passé, le ministre de l'Éducation, Rony Terry-Ipaya, s'est adressé à tous les professionnels de l'éducation dans une traditionnelle lettre de rentrée, une longue feuille de route de 8 pages dans laquelle le ministre qui vit sa deuxième rentrée scolaire au gouvernement a donné ses grandes orientations pour l'année. Le ministre souhaite toujours une école ancrée dans son environnement et dans sa société, une école qui nous rassemble et qui nous ressemble, c'est ce qu'il a écrit. Et sa priorité, Valdemar Delage, c'est le renforcement des langues polynésiennes.
Oui, priorité éducative du pays, que les élèves deviennent des locuteurs actifs. Alors pour cela, le ministère va continuer de développer son plan d'action territorial pour les langues dans le premier degré. Il avait débuté à la rentrée dernière et doit se poursuivre jusqu'en 2028. Apprentissage précoce et quotidien, pratiques intensives et réflexions sur l'enseignement sont ainsi attendues, puisque le temps d'enseignement des langues va passer à 3 heures hebdomadaires dans le premier degré et à 2 heures en classe de 6e pour les collèges qui bénéficient d'un professeur en langues et cultures polynésiennes. Les enseignants qui vont d'ailleurs bénéficier d'un plan Réo dès janvier 2025 pour consolider leurs compétences pour ceux qui se sentent en insécurité linguistique. Et cet apprentissage, il va pouvoir prendre plusieurs formes pour les élèves avec des moments d'immersion, notamment en langue polynésienne sur les temps de vie scolaire, ou encore l'intégration de l'art oratoire et des chants traditionnels dans le parcours éducatif et artistique des élèves. A noter que dans l'ensemble, le ministre souhaite poursuivre toute son océanisation des programmes scolaires qu'il faut, dit-il, adapter et contextualiser davantage, aussi bien en français qu'en mathématiques, en éducation civique et bien sûr en histoire géographique, mais aussi par exemple en EPS avec les Tuareg Maori, Charlie.
Et le Réo n'est pas la seule priorité linguistique du pays.
Non, le ministre met l'accent sur le plurilinguisme, à savoir la langue polynésienne, le français, mais aussi l'anglais. L'expérimentation des classes bilingues français-anglais dès le primaire va d'ailleurs se poursuivre à Bora Bora, car cette pratique de l'anglais est bien sûr prioritaire pour le développement des filières hôtellerie, restauration et tourisme. Dès cette rentrée, un parcours anglophone est d'ailleurs mis en place pour les élèves de bac pro dans ces filières touristiques.
Et Rony Terry-Ipaya met aussi en avant dans sa lettre de rentrée le bien-être des élèves.
Oui, une des priorités est l'amélioration d'accueil et de vie dans les internats. Une autre est bien sûr la lutte contre le harcèlement scolaire, avec la mise en place pour cette rentrée d'un nouveau domaine dans qu'il est appelé bien-être et bien apprendre. Le ministre souhaite aussi la mise en place de lieux de parole et d'écoute pour les élèves dans chaque établissement et la formation de personnel, car il concède qu'il manque encore de formateurs pour lutter contre le harcèlement. Toujours en ce qui concerne le bien-être à l'école, Rony Terry-Ipaya souhaite par ailleurs poursuivre le plan de rénovation des constructions scolaires, dont la majorité date d'avant les années 90. La liste des bâtiments à rénover entre 2025 et 2028, elle sera actualisée après le vote du budget 2025, Charlie.
Merci Valdemar Delage. La rentrée, c'est donc demain pour 3 jours sur le thème de la rentrée en musique. De nombreux rendez-vous vont animer le calendrier tout au long de l'année, à commencer par la journée polynésienne du sport scolaire. Ce sera le 28 août. A noter qu'au niveau du calendrier, justement, le ministre a annoncé une réflexion sur son évolution. Il souhaite un calendrier plus adapté aux conditions climatiques pour éviter la présence d'élèves en classe lors des pics de chaleur. Cette refonte pourrait être mise en place dans 2 ans. Autre mesure attendue cette fois dans le courant de l'année, c'est l'adaptation du statut des établissements du second degré. Le pays veut créer un statut particulier pour ces établissements, ce qui se fait déjà en métropole ou en Nouvelle-Calédonie. Une loi du pays sera adoptée en ce sens dans le courant de l'année, nous dit le ministre. En attendant, les élèves reprennent donc demain ou après-demain pour 1 mois avant des premiers congés prévus du 14 au 22 septembre.
Pas d'amélioration sur le front social.
Et oui, cela fait bientôt 1 mois que les grèves s'enchaînent au dur pour ce qui est du mouvement chez l'aéroport de Tahiti. Dernier rebondissement dans ce conflit, le directeur général d'ADT, Gwenvel Ronsin-Hardy, qui a diffusé samedi un communiqué. Un communiqué qui fait suite à 2 lettres ouvertes qu'il avait reçues. La première jeudi, de la part du haut-commissaire, qui lui demandait de trouver au plus vite une porte de sortie. Puis samedi, 2e courrier qui est arrivé de la présidence cette fois. Moete Brotherson réclamait un audit indépendant et des mesures urgentes contre la souffrance au travail exprimé par les salariés, autour donc du directeur d'ADT de s'expliquer sur le dialogue social ou son absence au sein de l'entreprise en grève depuis le 30 juillet dernier. Les explications de Caroline Perdry.
Gwenaël Ronsin-Hardy compte 12 invitations et 6 réunions, dont seulement 2, dit-il, se sont déroulées dans un climat apaisé et constructif. aucune négociation ne s'est tenue comme le prévoient les dispositions réglementaires, écrit-il. Il souligne que malgré les deux jours de paralysie au Raromata et à Rangiroa et quelques retards, les vols internationaux et domestiques ont été assurés et il affirme que tous les passagers sont assurés de voyager dans des conditions de sécurité conformes. Ce n'est pas tout à fait l'avis de la brigade de gendarmerie qui a relevé des manquements au sol avec des accès non contrôlés aux zones de sécurité. Le directeur d'ADT assurait travailler à un projet de protocole d'accord et conclut son communiqué en affirmant « Je suis un homme d'engagement avec des valeurs simples et fortes ». De son côté, Patrick Galnon a déclaré à Polynésie la Première qu'il n'a jamais vu une opposition du patronat aussi forte et il pense que la direction d'ADT ne veut pas vraiment négocier mais joue la montre en attendant le prochain appel d'offres sur la concession de l'aéroport.
Voilà, et à noter qu'une réunion est en cours en ce moment même à ADT entre l'intersyndicale et la direction. Les agents des deux sociétés de sûreté prestataires d'ADT à Tahiti Faa sont eux aussi toujours en grève. Une rencontre était évoquée pour aujourd'hui, mais les syndicats disaient il y a quelques minutes encore n'avoir aucune nouvelle de leur direction.
Et puis le ciel est décidément bouché dans l'aérien.
Et oui, puisque trois nouveaux préavis ont été déposés ce week-end, cette fois dans les compagnies aériennes. L'intersyndicale a déposé un préavis chez Air Tahiti, Air Moana et Air Tahiti Nui. Dans les revendications, on trouve des demandes de revalorisation salariale, des formations techniques régulières et qualitatives. Spécifiquement chez ATN et Air Tahiti, il est question de risques majeurs en matière de sécurité des vols. Chez Air Tahiti Nui, les syndicats demandent aussi la reconnaissance de la pénibilité de l'activité de PNC. Et enfin, chez Air Moana, les syndicats demandent un audit social sur les conséquences du harcèlement sexuel et moraux selon Tahiti Info. Si aucun accord n'est trouvé, la grève sera effective dans ces trois sociétés dès vendredi.
Voilà pour le ciel. Côté mer, la Polynésie a de la visite.
Et oui, deux bateaux aux allures militaires qui sont à quai au port de Papeete ce matin. Le premier, il est chilien. Il s'agit de la frégate Almirante Condel, un bâtiment de 13 mètres tout de même qui est arrivé ce dimanche et doit rester jusqu'au 14 août à Tahiti. Une frégate qui revient d'un large exercice interallié, le RIMPAC 2025, qui a rassemblé 29 nations et pas moins de 25 000 militaires. C'était à Hawaï. En face de ce bateau, sur le quai d'honneur, un autre vaisseau un peu plus petit, le Harriet Lane, qui bat pavillon américain. Alors cette fois, il ne s'agit pas réellement d'un navire militaire, malgré ses aspects, mais d'un navire des US Coast Guard, les gardes-côtes qui, aux États-Unis, sont séparés de la marine. Ça n'est pas la première fois, loin de là, que la Polynésie accueille un de ses bâtiments. Le Harriet Lane, long de 82 mètres, arrive lui aussi d'Hawaï et lui aussi arrivé hier. Et des portes ouvertes au public sont prévues à bord ce mercredi de midi à 16h. Rendez-vous sur le quai, donc sans sac à main ou sac à dos si possible, afin de faciliter la sécurité.
On finit par un tour aux Marquises maintenant, qui se remet à peine de son inscription à l'UNESCO.
Et oui, une inscription effective depuis le 26 juillet. On en avait beaucoup parlé forcément. Il y a eu les cris de joie en Terre des Hommes, les discours politiques très satisfaits, mais cette inscription n'est pas une fin en soi. La direction du patrimoine et de la culture, malgré les 30 ans de discussion sur cette inscription au patrimoine mondial et puis les 7 ans de travail difficile pour y rentrer, on dit même que le plus facile a été fait. Désormais, il faut gérer, préserver, valoriser ce bien mix à la fois culturel et naturel, réparti sur 6 îles de l'archipel. C'est le pays qui est officiellement mis aux responsabilités par l'UNESCO, mais hors de question de travailler seul. Il faudra œuvrer avec tous les partenaires institutionnels du côté de la culture et de l'environnement, du gouvernement, du côté aussi de l'État et de son office pour la biodiversité qui a beaucoup appuyé les coordinateurs dans ce dossier. Il y a bien sûr aussi les Tavanas des Marquises et la Codim et puis un siège est réservé aux associations locales de chacune des 6 îles représentées. Les travaux sont en cours localement pour identifier des représentants. L'objectif est donc de regrouper tout le monde au sein d'un comité de gestion. C'est la priorité de la préinscription. Écoutez.
Suite à une inscription sur la liste du patrimoine mondial, il faut mettre en place concrètement une structure de gestion, donc un comité de gestion, qui doit permettre en fait d'établir la feuille de route des coordinateurs, mais également des différents services du pays et de l'État pour justement assurer la préservation du bien, son intégrité, et surtout permettre en fait aux communautés locales d'être complètement impliquées dans la gestion de ce bien-là. Donc en fait, ce comité de gestion, c'est la priorité aujourd'hui de l'équipe projet pour la mise en œuvre de la gestion de ce bien.
Anna Tawari Tamari, le responsable de la cellule patrimoine culturel à la DCP. L'archéologue rappelle que ce comité de gestion est déjà prévu dans l'épais dossier d'inscription qui a été transmis à l'UNESCO pour entrer au patrimoine mondial. Le plan de gestion que ce comité doit appliquer y est aussi déroulé par le menu, avec pas moins de 101 actions à mettre en place dans les 5 prochaines années. Alors cela va de la signalétique des sites aux travaux à mener avec les riverains, en passant par la communication internationale ou les études scientifiques qu'il reste à mener sur place. Beaucoup d'acteurs seront impliqués dans ces ces travaux, les associations et les services du pays avant tout, mais aucune équipe spéciale n'est réellement prévue pour travailler sur la gestion UNESCO, mis à part une coordinatrice recrutée par la CODIM. La plupart des travaux vont en fait s'inscrire dans le calendrier normal des administrations.
Le plan de gestion ne vient pas empêcher, en tout cas modifier le plan d'action des différents services à la fois du pays et de l'État. Bien au contraire, plusieurs actions qui ont été identifiées dans ce plan de gestion viennent conforter finalement la feuille de route des différents services du pays, et notamment de la direction de la culture et du patrimoine, mais c'est pareil également pour la DIREN, la DEPAM, la DCA, la DRM, et du côté de l'État pour l'OFB.
Anna Tawari Temari qui précise que la préservation et la valorisation du site sera contrôlée par l'UNESCO au bout de 5 ans, c'est la règle. C'est d'ailleurs ce qui devait arriver en 2022 pour le site de Tapu Tapu Tea, qui, je vous rappelle, avait été le premier site inscrit au patrimoine mondial au Fénois. Le Covid a décalé les travaux et ça n'est pas plus mal puisque les gestionnaires ont pris pas mal de retard sur certaines actions à mener sur place. L'effort est donc aussi mis sur ce point. La DCP, l'inspection de l'UNESCO, n'est heureusement pas encore datée. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Comme d'habitude, le retour de l'info, c'est à 16h. Ce sera pour le flash de la rédaction.
Merci beaucoup, Charlie. On passe à la météo sur Radio.